Claire Duvivier, bonsoir. Vous êtes une des deux éditrices avec Estelle Durand de les éditions Asphalt. Ces anthologies autour des villes, est-ce que vous pourriez nous en expliquer un petit peu la genèse, s'il vous plaît ?
Oui, donc l'idée, c'est, vu qu'on voulait faire de la littérature urbaine, c'est trouver une autre façon de parler des villes qu'on aime. Hein. Et cette façon, c'était la littérature noire. Donc, ce qui nous plaisait dans ce projet, c'est que ça permettait d'approcher la ville non pas comme un tout, hein, mais comme aussi assemblage de quartiers, en fait, qui ont chacun leur identité propre, hein, leur particularité. Donc, en fait, c'est une sorte de guide de voyage noir. Hein. Qui permet de découvrir la ville avec donc bah, le principe de la collection, c'est une nouvelle par quartier et donc des auteurs du coin qui s'approprient le quartier, qui en font à la fois un décor et un personnage. Donc, ouais, donc ça permet de faire une image composite, un portrait composite de la ville par ses différents aspects.
Par ces différents aspects, mais on est surtout dans le noir. Donc Cédric Fabre, qui est celui qui a rassemblé, on va dire l'anthologiste en quelque sorte, qui a rassemblé toutes ces nouvelles et qui vous les a proposées certainement, parle à un moment donné de Michel Foucault en disant on peut définir une ville par ses marges. Est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu compléter cette phrase, s'il vous plaît ?
Nous, effectivement, ça faisait partie du projet Asphalt. Au début, c'était la littérature qui parle des marges, la littérature de la marginalité. Hein. Pour nous, les genres en font partie. Hein. C'est la meilleure façon pour nous d'explorer une ville, c'est de commencer non par le centre, mais par les marges. Hein. Surtout qu'en général, dans beaucoup de villes, c'est quand même vers les marges qu'on trouve les choses les plus intéressantes, les coins les plus secrets et les plus inattendus. Hein. Et effectivement, c'est comme en littérature, effectivement, c'est pas forcément dans la littérature centrale, va-t-on dire, dans la partie émergée de l'iceberg qu'on trouve les choses les plus intéressantes, c'est en allant fouiller dans les marges qu'on peut trouver les secrets enfouis.
Alors évidemment, la question la plus évidente, c'est-à-dire qu'on a eu New Delhi, on a eu Londres, on a Paris, on a les grandes mégapoles, et puis nous on est très contents parce qu'on est méditerranéens et que nous on est ici du côté de Grasse, mais pourquoi le choix de Marseille ? Est-ce une rencontre ou est-ce l'idée de cette ville dont on a pas mal parlé l'année dernière, mais qui a quelques lumières noires dans son curriculum vitae ?
Alors nous, on avait envie de refaire une ville française, après Paris, on avait vraiment envie de retravailler sur une ville française. Mais ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est une rencontre, c'est la rencontre avec Cédric Fabre, en fait, qui connaissait la collection et qui a très vite eu un projet très construit, qui nous l'a soumis avant même qu'on ait une idée précise autour de Marseille. Et on a su que non seulement on avait envie de faire sur Marseille, puisqu'il nous racontait sur la ville, sur le territoire, hein, mais qu'en plus, ça ne pouvait se faire qu'avec lui, en fait.
Hein. Claire Duvivier, merci. On va justement passer à Cédric Fabre pour qu'il complète un petit peu tous ces quartiers et toutes ces marges dont il a eu envie de nous parler avec 12 auteurs que nous allons essayer aussi de rencontrer au fur et à mesure. Cédric Fabre, bonsoir. C'est donc à vous qu'on a confié le soin de rassembler ces nouvelles pour une Marseille très noire. Donc, en gros, un petit peu l'histoire de cette anthologie et la rencontre entre Asphalt et Cédric Fabre.
Bah, effectivement, au départ, ouais, c'était une rencontre. Donc, c'était le fait de la collection aussi. Une collection qui se décline sur des villes au noir ou des lieux au noir. Il y a eu donc Barcelone, Rome, Los Angeles, il y a eu Paris. Et quand j'ai vu la collection, au-delà du fait que je trouve que la maison d'édition défend et propose de très bons textes, il y avait cette obsession du territoire, du lieu. On a beaucoup de clichés, de définitions du roman noir ou du polar, c'est jamais très clair. Moi, je retiens quand même deux choses. D'abord, c'est une littérature de territoire, donc c'est dans quelle mesure les lieux façonnent, avec des codes, des valeurs, des mythologies, etc., façonnent des comportements et finalement des destins, quoi, et des personnages. Il y a le lieu qui est presque une matrice, à un moment donné, de personnages qui vont fonctionner. Et la deuxième chose qui m'intéresse dans le polar et le roman noir, c'est l'interaction d'un personnage, d'un individu, avec la collectivité, avec la communauté. Donc ces deux choses, c'était pour moi les deux choses à retenir de ce qu'on appelle le roman noir, de ce qu'on appelle le polar. Après, c'est jamais très clair ces définitions. Et partir de là, bah, le Marseille s'imposait parce que c'est une ville de noir et de polar. Il y a les mythologies. Bon, au-delà de l'histoire de ces violences, de la mafia, de le clientélisme politique, le polar étant aussi une littérature qui rend compte de la violence des rapports sociaux. Cet élément aussi est important. Donc là, Marseille, ça s'y prêtait parfaitement, je trouvais.
Alors justement, l'idée de peut-être pas rester forcément dans une définition du roman noir, beaucoup d'auteurs ne sont pas, a priori, dans cette anthologie, des auteurs classés auteurs de romans noirs. Donc apparemment, c'est complètement délibéré. Et ça permet peut-être une mosaïque et une vision beaucoup plus large, même si le roman noir est une planète déjà immense.
Et puis il y a beaucoup de romans noirs qui sont publiés dans d'autres collections, dans d'autres. Cette coupure blanche-noire, elle était déjà exagérée au départ, elle est probablement pas correcte et un peu fausse. Donc là, l'idée c'était de casser ces a priori, qui fait que les genres, de simple fait qu'ils existent, sont cloisonnés et cloisonnants. Donc là, effectivement, à partir du moment où un auteur écrit sur un territoire et sur un lieu et qui raconte un pan d'histoire de Marseille ou qu'il explore un peu la ville, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça encore plus intéressant, effectivement, d'avoir des écrivains qui ne revendiquent pas du tout le polar ou le roman noir, qui sont pas dans les genres ou les étiquettes. Là, il y avait quelque chose de possible parce qu'ils s'appropriaient des codes d'un genre, donc entre guillemets, qu'ils connaissent pas forcément. Certains d'entre eux ne lisent pas de polar ou de roman noir, savent pas ce que c'est. Et donc, ils en ont simplement une image. Quelques discussions préalables qu'on a eues qui ont fait qu'ils ont produit une histoire sans avoir justement ces codes du polar et du roman noir, sans que ce soit quelque chose de...
Il y a beaucoup, bizarrement ou pas d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires qui sont des histoires noires et qui sont finalement des histoires d'amour dans les 12 nouvelles.
Oui, c'est donc le ça prouve encore que le genre est pas un truc figé, quoi. Le genre est en constante ouverture. Il s'agit de parler aussi des rapports humains, des émotions et des pensées humaines. Et dans les émotions humaines, forcément, à un moment donné, l'histoire d'amour vient au milieu. Après, ce qui est intéressant, c'est que une des histoires d'amour à laquelle je pense là spontanément, celle de Marie Neuser, histoire d'amour contrariée, on va dire, entre guillemets, même si c'est au-delà de ça, elle est aussi, cette histoire, elle s'inscrit dans un territoire, dans un lieu. Marseille est omniprésente et le fait que cette histoire se soit épanouie ou pas à Marseille, ça fait déjà sens.
Et vous avez dit donc que vous aviez eu quelques discussions préalables avec chacun des auteurs des nouvelles. Est-ce que, une consigne ou pas d'ailleurs, c'est quelques pensifs à éviter sur Marseille qui a quand même une réputation des fois, pour le reste de la France, un peu pénible à supporter?
Il n'y a pas des masses d'histoires de Kalachnikov déjà. Après, on a un autre poncif qui est un autre cliché ou un autre truc qui revient souvent, qui est le clientélisme politique. C'est une réalité. Donc le problème, c'est que nos clichés... parfois ils correspondent un peu à des réalités. Quand on ne parle que de ces clichés ou qu'on ne fait un focus que là-dessus, ça devient une sorte de ça devient vite un mensonge, quoi, finalement. Après, les clichés, on est obligé de faire un peu avec. Moi, j'ai par exemple personnellement eu un peu le parti pris de me dire, bah, les clichés, il y en a, on va faire avec et puis on va y aller un peu à l'intuition, on verra bien. On se relira pour voir si on a vraiment été dans des clichés, mais voilà, le fait qu'il y ait la mer et le soleil, bah, ça c'est une réalité. Après, au-delà de ça, il faut pas que l'histoire de chacun des auteurs se résume à des clichés. Et le fait de faire ce recueil de nouvelles et de faire que les auteurs écrivent, c'est pour aller au-delà des clichés. Mais il faut les utiliser peut-être à un moment donné pour se mettre en porte-à-faux. Les clichés sont là, à la limite on s'en sert.
Merci beaucoup Cédric Fab. On va demander à des auteurs de venir vous rejoindre. Marie Neuser, bonsoir. Votre vision de Marseille, c'est à la fois une histoire, une vision très noire, une histoire noire, mais aussi une belle histoire d'amour.
Oui, j'avais envie de développer la Marseille minérale, en fait, davantage que la Marseille construite, voilà, organique. Donc celle qui est vraiment accrochée au calcaire, à la blancheur, à la mer, aux animaux, hein, puisqu'il y a les fameux gabions qui sont très présents aussi dans ma nouvelle. Et j'avais envie de faire de cette île du Frioul, qui est cette île complètement étrange, d'en faire un peu un symbole de plein de choses, du temps qui passe, de la désagrégation de l'amour, du passage de l'autre côté, puisque le Frioul est quand même l'endroit de la quarantaine. le lazaret, le mouroir, etc. Donc voilà, je voulais vraiment que ce soit un lieu très symbolique d'un état d'esprit, d'un personnage.
Et justement, alors ce passage de la quarantaine par rapport au personnage, on parle de déliquescence, ça va jusqu'au boutisme, quoi. Vous allez carrément, puisque c'est la désagrégation organique en désagrégation minérale, justement.
Oui, oui, ça me semblait important comme ça de donner cette image de la ville qui est très ancrée dans sa nature. Et cette nature-là n'est pas tendre, c'est une nature extrêmement violente. Et je trouvais qu'elle était très adaptée justement à décrire toute cette déliquescence d'un amour, d'un respect de personnes.
Et donc je vais poser la même question à tous les auteurs. C'est une phrase que cite Cédric Fabre dans le début de l'anthologie. Il dit, il cite Michel Foucault en disant « C'est ainsi qu'on définit mieux le centre par les marges ». Ça vous convient comme définition ?
Oui, oui, oui. Moi je pense que ça convient tout à fait du fait que dans cette nouvelle que j'ai écrite, j'ai effectivement voulu décrire quelque chose d'extrêmement essentiel, qui est l'amour et la fin de l'amour et l'infidélité, la découverte de l'infidélité, ce genre de choses, par ses marges, oui, par un passage à l'acte absurde, par cette promenade sur des rochers avec un corps déchiqueté. Enfin voilà, oui, effectivement, j'ai encore pris le problème par le bout, par les marges.
Merci beaucoup Marie Neuzer. Pia Pedersen, bonsoir. Une question toute simple. Votre vision de Marseille par rapport à votre nouvelle ?
Marseille étant une ville qui est complètement en marge de tout, c'est une ville un petit peu offshore, il suffit d'ouvrir les yeux et on a en fait toute la littérature noire qui est quasiment prête. Il n'y a plus qu'à copier en fait.
Votre charmant accent nous montre bien que vous n'êtes pas native de Marseille, me semble-t-il. Donc, quelle est, on va dire, la vision, la lumière de Marseille qui vous intéresse le plus et que vous avez eu envie de décrire justement dans cette nouvelle ?
Moi, moi, ce que j'aime chez Marseille, c'est pas une ville que j'aime énormément. En fait, j'aime pas beaucoup Marseille. Mais je trouve que c'est une ville intéressante, un peu en avance de 100 ans, justement, par tout ce qui est très mélange et très atypique à Marseille. C'est une ville qui est très proche à Los Angeles, en fait. Hein. J'ai l'impression de bouger un peu dans la même ville, l'une étant plus grande que l'autre, mais je vois un peu la même configuration dans la ville. Une ville comme ça, un peu qui serpente, un peu bâtard, on ne sait pas bien. En fait, on ne peut pas très bien définir la ville. Hein. C'est plein de petits villages collés ensemble avec des espèces de terrains vagues, des autoroutes qui relient tout ça. Et c'est une ville sans être une ville.
Et justement, ce format court, ça permet quand même d'arriver à donner sa vision en un format quand même de quelques pages. Arriver, c'est un challenge quand même, ces nouvelles.
Moi, j'adore écrire des nouvelles. Ça ne marche pas très bien en France, mais j'adore écrire les nouvelles. Alors, quand il y en a la possibilité d'écrire un, je fonce à chaque fois. Et c'est vrai qu'à Marseille, c'est plutôt facile, hein, parce que la matière est dans la rue. Et il y a tellement de corruption, il y a tellement de choses qui ne vont pas que... Je veux dire, si on dit, on écrit dans le roman noir beaucoup sur les choses qui ne vont pas, c'est vrai qu'à Marseille, c'est l'endroit pour le faire.
Merci beaucoup, Pia. La première nouvelle du recueil, Christian, et donc vous avez expliqué tout à l'heure que vous n'êtes pas au départ un auteur de romans noirs. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce projet et en quoi Marseille est un joli lieu d'histoire noire ?
Oui, je ne suis effectivement pas auteur de romans noirs. De ce fait, j'étais un peu surpris que Cédric me propose de participer à ce recueil. Surpris et très content aussi. Parce que ça m'intéressait beaucoup, a priori, d'écrire sur ma ville, sur Marseille, où je suis né, où j'ai grandi et où je vis encore, ou tout au moins juste à côté. Et dans tous les livres que j'ai écrits, fiction ou non-fiction, Marseille apparaît finalement assez peu. Et on me demande souvent comment ça se fait, comme s'il fallait absolument écrire sur Marseille, sous prétexte qu'on est né à Marseille. Alors j'étais très heureux de pouvoir le faire. Et de pouvoir parler de mon quartier d'enfance, qui est le quartier d'Andoum, qui est celui donc qui est le lieu de la nouvelle que j'ai écrite. J'étais si content d'ailleurs que j'étais en train à ce moment-là d'écrire un roman qui sortira bientôt, mais que j'ai arrêté le temps d'écrire cette nouvelle et que j'ai repris ensuite.
Et donc, dans l'introduction de cette anthologie, Cédric Fabre dit une phrase, et donc je pose la question à tous les auteurs de cette anthologie. Le centre se définit bien grâce aux marges. Et c'est vrai qu'Andoum est un petit peu à la marge, puisque côté mer, mais quand même en plein centre de Marseille. C'est quand même un lieu très central.
Oui, c'est relativement central, hein, finalement. Le quartier d'Andoum, évidemment, il donne sur la mer, mais à Marseille, la mer est partout. Le quartier d'Andoum, ce n'est pas ce qu'on appelle... Marseille, c'est une ville très particulière. Il y a un centre minuscule. Enfin, si on parle d'un centre, c'est quoi? C'est la Canebière et le Vieux-Port. Après, tout de suite, on est dans des quartiers. Andoum, donc, c'est un quartier, des villages. Voilà, ouais. Mais Andoum, bon, c'est à pied, c'est à 5 minutes du Vieux-Port. Donc, c'est effectivement le centre de Marseille. Mais la phrase, l'idée que le centre se définit par la périphérie, évidemment, c'est une idée très intéressante. L'idée des marges qui définissent le centre, bien entendu, on peut la reprendre à son compte, notamment à Marseille, oui.
Salima Toubou, autre nouvelle. Alors, on n'a pas entièrement joué le jeu parce que la nouvelle se passe entre Marseille, certes, mais aussi les Comores. Est-ce qu'il y a un bout des Comores à Marseille ?
Oui, bien sûr, oui. À Marseille, il y a à peu près, à ce qu'on dit, il y a 80 000 Comoriens. Donc, ce n'est pas un bout, c'est toute une ville comorienne, mais qui s'est intégrée à Marseille, quoi. Donc voilà, donc Marseille, c'est la cinquième île des Comores. Et on dit souvent que Marseille, c'est la capitale des Comores, parce que Moroni, la capitale, compte à peu près 50 à 60 000 personnes, alors que dans la région PACA, il y a plus de 80 000 Comoriens.
Donc, un Comorien à Marseille, c'est, sans mauvais jeu de mots, une lumière noire, une histoire noire, ou au contraire, une lumière éblouissante?
Pour moi, c'est une lumière éblouissante. Et d'ailleurs, les Comores, ça veut dire Jezr el-Qamar, les îles de la Lune. Donc, c'est la lumière de la Lune. Et faire une nouvelle noire sur cette communauté, ça m'a beaucoup amusé parce que ça m'a permis en fait de ressortir les relations entre les Comores et la France tout en étant à Marseille.
Et enfin, je pose la même question à tous les auteurs. C'est une phrase de Michel Foucault, extrait de l'introduction de Cédric Fabre, qui dit finalement le centre se définit toujours par les marges. Donc, un petit commentaire sur cette phrase?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais parce qu'à un moment, qui décide où se trouve le centre ou pas? Donc, en pensant que la marge est la marge, et si finalement ceux qui sont dans la marge pensent que le centre, c'était la marge. Donc, oui, c'est une phrase qui est exacte et que je partage parfaitement, oui.
Patrick Coulon, bonsoir. Donc, toujours en direct du MUCEM, et ce sera en léger différé pour notre émission. Donc, une nouvelle qui se passe dans le panier. Les voisinages se passent pas toujours très bien à Marseille?
Les voisinages se passent à Marseille, comme partout ailleurs, j'en ai bien peur. Souvent, pas très bien. Effectivement, je me suis bien amusé à raconter l'histoire d'un type qui supportait pas son voisinage bruyant. Alors, que ça se passe au panier ou ailleurs, finalement, peu importe. Mais c'était amusant pour moi de raconter une histoire dans un quartier de Marseille que je ne connais pas du tout. Donc, j'ai fait œuvre de, non pas d'imagination, mais de promeneur. Je suis allé voir un peu tout ça. Et donc, ça m'a replongé dans un quartier que, ma foi, tout Marseillais est censé connaître. Donc, voilà, j'ai un peu réappris, révisé mon panier à cette occasion.
Et puis aussi une petite mise en abîme, parce que le livre est l'élément majeur de cette histoire quand même.
Oui, ça, j'ai trouvé ça très marrant. Et d'ailleurs, je pense que ça n'a pas déplu à Cédric. Oui, le gars, on peut le dire parce qu'on le sait dès le début de la nouvelle, le gars tue son voisin avec un bouquin. À coup de bouquin, quoi. En fait, il est super énervé, il commence à prendre le type à coup de claque. Comme il a un bouquin à la main, c'est des claques avec un bouquin. Et puis ça finit qu'il lui écrase la glotte et la tranche du livre. C'est un gros livre, donc ça écrase très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est meurtre au livre.
Comme quoi le livre peut tout. Un petit commentaire sur une phrase de Cédric Fabre en exergue de ce roman. Le centre se définit beaucoup par les marges. Je pense que c'est un petit peu l'objet de cette anthologie, quoi, de décrire des personnes qui ne sont pas finalement toujours au centre, mais qui décrivent très bien Marseille.
Ouais, c'est assez taoïste comme, comme idée finalement. C'est-à-dire que au milieu coule une rivière, quoi, et les berges sont les marges et le centre c'est ce qui coule au milieu. Alors il y a un peu de ça, et là effectivement ce qu'on nous a demandé c'est plutôt de définir où étaient les berges. Donc en creux, effectivement, on doit pouvoir comprendre où est le centre. Si tant est que Marseille est réellement un centre, je ne vais pas me lancer dans des discours sur l'urbanisme actuel de cette ville, on pourrait commencer à se poser beaucoup de questions.
Ça peut faire l'objet d'une émission entière, je pense. Merci beaucoup, Patrick. Serge Scotto, pour une nouvelle. Et on ne sait pas trop, Marseille, histoire d'amour ou histoire noire ?
Histoire de chagrin d'amour, on va dire, un peu entre moi et Marseille. J'aime cette ville, je n'aime pas ce qu'elle est devenue, un peu comme si mon grand amour s'était mis à faire la pute pour un sale proxénète et pour de l'argent, quoi. Et c'est ce qui se passe un peu, cette ville de misère outrageusement maquillée qui fait le tapin dans un immobilisme ambiant pour ce qui est du commun des Marseillais qui se sentent presque de trop aujourd'hui dans cette ville où on fait la chasse aux pauvres au bénéfice de quelques-uns. Mais d'un autre côté, je rejoins Machiavel qui dit que les peuples ont les gouvernements qui méritent. Et quand on voit qu'on en est à Gaudin 4, je finis par me dire que les Marseillais ne méritent pas mieux.
Ceci dit, reste la lumière à Marseille, et dans toutes vos nouvelles, la lumière est omniprésente.
Oui, cette lumière assez magique. Au soleil couchant à Marseille, vous jetez votre appareil photo en l'air et vous avez un cliché, quoi. Cette espèce de lumière orange qui cuit les façades. Les façades à Marseille, elles passent du blanc au bleu en passant par l'orange dans la journée, c'est merveilleux, quoi.
Et donc, pour terminer, l'idée du centre qui est défini par les marges. Je pense que c'est quelque chose qui sied bien au roman noir et à vos écrits.
Ben oui, tout à fait. Moi, je crois que le bon sens, finalement, vient de la marge. Je dirais qu'il faut un peu dépasser les limites pour que les autres les aperçoivent, quoi. Et on est là pour ça, on est là pour dépasser les limites. Et d'ailleurs, peut-être que le polar est le dernier genre de la littérature qui ne soit pas totalement... assujetti, j'allais dire, au politiquement correct, je dirais plutôt au subversivement correct, quoi. C'est un genre qui reste encore véritablement, vrai, radical.
Très jolie conclusion, merci beaucoup Serge Scotto. François Beaune, bonsoir. Donc, qu'est-ce qui fait que, quand on vous demande une nouvelle sur Marseille, vous faites une unité de lieu et tout se passe dans un bus? Comment peut-on définir Marseille dans un bus?
Moi, j'ai découvert Marseille à travers le 49, parce que quand je suis arrivé, j'étais déjà venu quelques fois, mais je me suis installé dans la Friche Belle de Mai, j'étais invité en résidence, et donc j'ai passé de mars à juillet 2011 à faire des allers-retours en bus, à me balader, et puis à découvrir aussi mon quartier, parce que moi, je suis très sédentaire, en fait, je bouge beaucoup, mais quand je me mets dans un endroit, je rayonne à environ à 500 mètres de là où j'habite, quoi. Donc je suis resté sur la Belle de Mai. Et quand je devais aller dans le centre, je prenais ce 49. Et il me semble que ce 49 qui traverse le 3e et qui va ensuite dans le Panier, ensuite qui va desservir la Joliette, qui fait ce tour là et qui arrive dans le centre, eh bien, il traverse différentes populations. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir les touristes qui commencent à prendre peur quand ils voient que c'est finalement au bout d'un à un certain moment les seuls blancs dans le bus. Tous ces touristes qui viennent au Mucem, qui se retrouvent dans ce petit bus parce qu'on leur a dit qu'il allait desservir le Mucem, de voir le mélange de populations qu'il peut y avoir. Et voilà. Donc, et c'était une manière. J'espère drôle de poser un premier regard sur Marseille. Moi, c'était important pour moi de... J'étais très heureux que Cédric me propose ça aussi. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour moi, c'était important. Comme je m'installe, ça fait un an que j'ai pris un appartement à Marseille, que je m'installe vraiment, que je vais vivre à Marseille. C'était important de faire un premier texte sur cette ville. Voilà. Moi, quand j'étais à Lyon, j'ai écrit sur Lyon, moi, par exemple. J'ai jamais écrit sur des choses que je connais pas. J'écris toujours sur les lieux que j'habite. Et donc, voilà, j'étais content de faire un truc sur Marseille pour commencer. Ça m'a permis de m'installer.
avec un vocabulaire particulier d'ailleurs. Et donc, deuxième question, dans sa préface, Cédric parle du centre, une phrase de Michel Foucault, le centre qui est défini par les marges. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans le bus, justement. On traverse beaucoup de marges aussi.
Oui, c'est à travers certaines mêmes marginalités, souvent que les choses, des fois, prennent sens, s'incarnent. De temps en temps, il faut pour raconter des histoires, de toute manière, il faut chercher la personne qui est capable, qui est un véhicule d'une certaine réalité. Ouais, je suis d'accord avec Foucault. Je suis d'accord avec Foucault. C'est débile, mais la littérature a vocation à faire s'exprimer ceux qui ne s'expriment pas tout le temps. Donc, elle a vocation à les voir dans les marges, dans les, et elle a vocation à décrire les terrains vagues qui n'auront jamais été décrits. Ouais, c'est à mon sens, c'est ce que doit faire la littérature. C'est un de ses objectifs, c'est de parler de tout ce qui a été ignoré, tout ce qui est sous-vécu, tout ce qui est disparu dans la sous-réalité de nos vies. Voilà. Dans les limbes un peu.